Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est au secteur de l'édition qu'est consacrée cette émission au fil des pages pour évoquer la situation actuelle de l'édition, à la fois son dynamisme et ses difficultés. Et j'ai le plaisir de recevoir un jeune éditeur, on peut dire, enfin, dont la maison d'édition a déjà fait ses preuves, Alain Noël, président-directeur général des Presses de la Renaissance. Alain Noël, bonjour.
Bonjour Hélène.
Et bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Depuis quand existent les presses de la Renaissance ? Ont-elles vécu une renaissance ?
Elles ont vécu une renaissance depuis 1997. J'ai repris cette maison afin de créer une maison d'édition qui traiterait de la question du sens dans feu le groupe Vivendi Universal Publishing en français dans le texte et maintenant le groupe Editis. Voilà, donc j'ai commencé il y a... Eh bien, presque 9 ans maintenant.
Êtes-vous né dans l'édition ou êtes-vous tombé dans l'édition par hasard ou bonheur ou chance ?
J'ai été formé, je fais partie de cette dernière génération formée au plomb. D'abord, j'aurais jamais pensé être éditeur dans ma vie, mais il se trouve que mon père m'a dit qu'il serait bon que j'apprenne un métier. Et donc, il m'a dit « tu seras typographe, mon fils ».
Bon.
Alors donc j'ai commencé sans m'en rendre compte mon métier d'éditeur dès l'âge de 14 ans où pour moi quand on parle de Chateaubriand ça n'évoque pas une viande succulente, pour moi Chateaubriand c'était mon cauchemar, c'était du plomb à la pince à épiler qu'il fallait corriger parce qu'on corrigeait à la pince à épiler, des lettres qui tenaient ensemble que par un bout de ficelle parce qu'il ne faut pas oublier qu'une page de livre était un amas de plomb cerné par une ficelle qui vous serrait tout ça et donc j'ai eu un contact très très direct avec l'édition dès mon enfance. C'était le plomb en fusion.
Après avoir évoqué cette période antédiluvienne tout de même de l'édition...
Ouais, qui date des années quand même, en 70 ça s'est terminé.
Alors, les presses de la Renaissance, aujourd'hui, c'est combien de livres par an ? Vous avez connu une grande progression. Je crois que vous faites partie de ces éditeurs qui ont véritablement progressé depuis 10 ans.
Oui. Comme quoi, d'ailleurs, il y a la possibilité... à la fois de créer des maisons d'édition qui marchent, à la fois de créer des maisons d'édition entre guillemets petites, avec le soutien d'un grand groupe dans une totale liberté éditoriale. Et ça, je crois qu'il faut reconnaître que c'est possible aujourd'hui, parce que souvent, beaucoup de petits éditeurs nous disent « Ah mais oui, mais on veut notre indépendance, on veut pouvoir publier ce qu'on veut. Mmh. » Il y a une sorte d'idéalisme de l'éditeur totalement libre, mais souvent sans moyens. Moi, j'ai opté pour le fait de me dire je veux travailler dans un grand groupe, je veux avoir les moyens d'un grand groupe pour que tout ça soit mis au service de livres que j'ai envie de publier et sur lesquels j'ai un accord de principe, c'est-à-dire, donc, comme je vous le disais au départ, nous faisons des livres pour construire l'homme. Alors donc, tout ce qui n'est pas, entre guillemets, pour prendre un terme ancien, édifiant, je n'ai pas envie et je n'ai pas la volonté de le publier. Alors, on a commencé comme une toute petite maison qui commence par 15 livres par an, puis 25, puis 40. Et là, actuellement, à une dizaine de personnes vraiment dédiées à la maison d'édition, nous publions 70 titres par an.
70 titres par an.
Dont la moitié, on va dire, en spiritualité pure et dure.
Voilà, donc quel secteur ? Un secteur fort de spiritualité aux presses de la Renaissance ?
Aujourd'hui, on a, on va dire, quatre secteurs. On a un secteur de documents, où on aborde des questions de société et où on aborde donc par le biais des essais, par le biais des témoignages, par le biais de livres pratiques, des problèmes qui correspondent aujourd'hui à des difficultés que rencontre la société. Donc donner un éclairage sur ces difficultés. Après, nous avons une partie littérature où nous sommes positionnés de manière un peu particulière. Nous faisons de la réédition de chefs-d'œuvre essentiellement du 19e siècle. Là, nous avons fait un très très gros succès avec le roman de Léonard de Vinci, de Merejkovski. C'est une pure merveille de la littérature et les lecteurs ne s'y sont pas trompés. Alors donc, on a un peu de littérature, on a des beaux livres avec des carnets de voyage. Là, nous venons de sortir, toujours sous l'angle Léonard de Vinci avec Gonzague Saint-Brie, c'est une collection qui s'appelle Sur les pas de Léonard de Vinci. Nous avons publié Sur les pas de Marguerite Duras, Sur les pas de Jules Verne, Sur les pas de Georges Sand. Voilà, donc quelques
beaux livres.
Et puis de la spiritualité.
Pas seulement du témoignage, mais aussi de l'étude et même des conseils en spiritualité. Il y a des chartreux, par exemple,
C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de se rendre compte aujourd'hui qu'une collection de sagesse issue de la grande spiritualité cartusienne, eh bien, trouve preneur en France et puis trouve preneur dans le monde entier aussi. On vend nos droits dans le monde entier. Ce qui est assez extraordinaire, alors si je peux ouvrir une parenthèse qui est plus qu'une digression, mais c'est un peu ce qui me fascine, c'est que depuis le début, j'ai eu la prétention de croire que nos livres pouvaient intéresser le monde entier.
Et donc, je me suis donné.
Et c'est ce qui se passe. On a des livres qui sont traduits en 14, 15 langues. Alors, c'est le cas, mettons, feu quelqu'un de votre maison. Quand on a publié le testament philosophique de Jean Guiton, qui est un vrai chef-d'œuvre, et d'ailleurs qu'on va republier.
De l'Académie française,
l'an
donc.
Prochain. On l'a vendu dans 14, 15 pays. Je dirais, ça, c'est une banalité. Mais qu'on vende dans 15 pays, et en faisant des best-sellers, mettons, au Japon, avec le témoignage d'un inconnu. Genre Tim Guénard, qui raconte...
Qui t'a converti, je crois, oui.
Oui, mais beaucoup plus que ça. C'est un rescapé de la maltraitance. Mm. On se rend compte que ça fascine autant le public français que le public italien, que le public de l'Allemagne de l'Est, que le public... Là, il est parti en tournée au Japon. Et un mois après, les Japonais étaient surpris parce que 30 000 exemplaires étaient déjà partis et ils nous demandent de le faire revenir. Donc on se rend compte, en fin de compte, qu'une expérience humaine édifiante, elle l'est pour le monde entier. Je crois qu'à un certain moment...
Elle l'est pour l'homme, comme vous dites.
Voilà. On touche à l'universel de l'homme. Et ça, je crois que c'est ma plus grande fierté. C'est pas de faire des best-sellers en France uniquement, mais c'est de se dire que ce que l'on produit... Parce qu'il y a une mentalité française qui est très, très particulière. On se plaint toujours que la culture française est en voie de disparition. On se dit toujours qu'on a une spécificité quasiment qui nous coupe du reste du monde. Or, là, on se rend compte que pas du tout. Les expériences et nos réflexions peuvent intéresser le monde entier.
Alors, en tant qu'éditeur, vous participez, je suppose, aux grandes foires du livre, qui sont des foires où justement les éditeurs du monde entier échangent leurs titres, achètent des titres, des traductions, etc. Est-ce que vous fonctionnez aussi sur ce système ?
Nous fonctionnons encore sur ce système. Je veux dire encore parce que...
Il vous semble en moindre force.
Je dirais que ça n'a plus le même sens qu'auparavant. Oui. Là, nous sommes sur Internet en ce moment. Et Internet a complètement bouleversé la donne.
C'est un danger pour l'édition, pour vous, ou c'est un avantage ?
Non, c'est un énorme avantage.
C'est un énorme avantage.
On correspond à longueur d'année. Et puis je pense que quand tout ce qu'il y a autour de la webcam, tout ce qu'il y a, les très hauts débits qui vont arriver, vont nous permettre d'avoir une relation beaucoup plus vivante encore. Mais nous nous rendons compte que malgré tout, nous sommes heureux de nous voir, de nous toucher la main, de discuter de vive voix,
le contact humain. Entre éditeurs, chaleureux.
Donc on a deux grands rendez-vous dans l'année. En ce qui concerne la vente des droits à l'étranger, c'est Francfort et c'est Londres.
Francfort et Londres, donc les deux grandes foires de l'édition. Ouais. Est-ce que vous notez vous-même des difficultés dans l'édition dues à des évolutions, je suppose, au niveau de la distribution ? Par exemple, les livres se vendent-ils moins bien en librairie et plus en grande surface ? Est-ce qu'il y a là un changement que vous notez pour votre maison d'édition, les Presses de la Renaissance ?
Alors, pour nous, non. Au sens où nous sommes une maison qui est en plein développement, donc on a tout à conquérir, donc on est en progression constante. En 8 ans, j'ai déménagé 7 fois pour prendre plus grand à chaque fois. Mais qu'est-ce que l'on constate ? On constate non pas une crise du livre, je pense qu'il n'y a aucune crise de livre, mais il y a une mutation du métier et une mutation énorme qui ne va pas aller sans conséquences, d'abord, je pense, dans la disparition d'un certain nombre d'éditeurs. En tout cas, obligatoirement, dans le changement de métier, qu'est le métier d'éditeur. Non pas que l'éditeur, en amont, l'éditeur c'est quoi ? C'est quelqu'un en fin de compte
qui... Oui, qu'est-ce que c'est le métier d'éditeur ?
Le métier d'éditeur, c'est assez simple. C'est quelqu'un...
Qui lit des manuscrits.
Bien sûr, qui lit des manuscrits. c'est quelqu'un, en tout cas, qui découvre des personnes qui ont des points de vue qui leur paraît intéressant sur le monde et sur les choses, et qui ont la prétention et la folie d'essayer de faire partager ce qu'ils ont découvert à travers cet auteur, de le faire partager au plus grand nombre. Donc, si vous voulez, cette partie créative de l'édition, je dirais cette partie créative parce que je pense qu'un auteur sans un éditeur n'est rien, puis un éditeur sans un auteur non plus n'est rien, mais je pense que ce tandem auteur-éditeur qui prennent à bras le corps une matière, alors aujourd'hui qu'on appelle livre, mais qu'on appellera peut-être plus uniquement livre demain, mais un contenu, un univers, une pensée.
Mais la créativité restera la même.
La créativité restera la même. On sera des marchands, parce que bon, malheureusement, l'éditeur, ça va peut-être déplaire à certains, mais l'éditeur est un marchand. C'est quelqu'un qui fait commerce d'un savoir. Donc, si vous voulez, nous continuerons à faire commerce. Le problème, c'est que nous ne ferons plus qu'une petite partie de notre commerce, je pense, avec les libraires. Parce que la mutation du marché, on n'a encore rien vu. Nous réfléchissons au sein de nos groupes, tous les grands groupes réfléchissent aujourd'hui à la mutation de l'imprimé. Parce qu'en fin de compte, tout le débat actuel qu'il y a sur la numérisation, sur la dématérialisation de l'objet, où nous pourrons vivre la même crise, toute proportion gardée, que la musique. C'est-à-dire la musique, c'est quasiment complètement dématérialisé aujourd'hui.
Absolument.
Même en hypermarché, la vente des CD, la vente des DVD est en chute libre. Parce qu'aujourd'hui, et là aussi c'est une grande mutation dans notre métier, une grande mutation du consommateur par rapport au libraire, on s'est vraiment interrogé en se disant « mais qu'est-ce qui a déclenché cette mutation ?» C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a moins de monde en librairie. On se rend compte que il y a des grandes distorsions maintenant au niveau des best-sellers. C'est-à-dire, il n'y a plus que quelques livres. Avant, sur les 100 premiers livres qui faisaient, on va dire, la majeure partie du chiffre d'affaires de l'édition, aujourd'hui, la majeure partie se fait sur 10 titres. Mmh. Avant, ça se faisait sur 100 titres. Il y a une surproduction qui est discutable. Mais en tout cas, ça fait depuis 16 ans que je suis dans l'édition. Eh bien, en 16 ans, le nombre de titres a doublé. Donc, il y a une incapacité, je pense, matérielle du libraire à absorber la production des éditeurs. Donc, je pense qu'Internet et la dématérialisation du texte est une opportunité absolument extraordinaire pour faire que la pensée rayonne beaucoup plus. Et dans nos dernières observations, nous avons senti vraiment un gros décrochage depuis l'an dernier au niveau du marché de l'édition. Il y a vraiment...
Oui, particulièrement l'an dernier.
Bon, l'an dernier, ça a commencé. Cette année, ça se confirme vraiment. Il y a un décrochage au niveau du marché de l'édition, une forme de stagnation qui est donc une régression obligatoirement. Et on se dit qu'aujourd'hui, l'équipement des ménages en ADSL, je pense que la grande bascule, ça n'a pas été le développement des chaînes télévisuelles, ça n'a pas été l'arrivée d'Internet dans les ménages. Je pense que le grand basculement, c'est la capacité aujourd'hui qu'ont les gens de télécharger à grande vitesse et donc de rendre le support agréable à consulter. Et ma plus grande surprise... Et ça, je dois le reconnaître, et c'est important pour la réflexion des auditeurs, c'est que moi, je m'étais dit, bon, mais qu'est-ce qui va être en danger avec le numérique ? Qu'est-ce qui va être en danger ? Certainement pas le roman, dans le sens où un roman, on aura toujours le plaisir de prendre un livre et puis de tourner les pages, de lire,
oui,
de s'en
sûr.
Servir comme oreiller sur la plage quand on veut s'endormir, enfin bon. Eh bien, je me suis dit, ce qui va disparaître, c'est bien sûr les annuaires. C'est stupide d'avoir un annuaire aujourd'hui, ça ne sert
les,
à rien.
Les guides, le pratique.
Les guides, le pratique, tout ça va disparaître. Eh bien, je suis tombé de haut parce que les premières études américaines qui nous sont arrivées montrent le plus grand nombre de téléchargements en ce qui concerne l'édition sur les portables et sur les palmes, eh bien, ce sont les romans. C'est-à-dire, les gens lisent les romans sur leur téléphone portable. Et alors là, eh ben, je tombe de haut, je ne m'en remets pas.
Et vous ne considérez pas que c'est un danger, en tout cas, pour les auteurs? Parce que, bon, il y a là un téléchargement un peu pirate, au fond.
Ah non, c'est absolument pas pirate, c'est des téléchargements.
C'est gratuit,
non,
en
non,
tout cas.
Non, c'est payant.
Vous téléchargez un
roman, tout comme vous pouvez télécharger légalement de la musique maintenant, vous pouvez télécharger légalement des romans. Donc, je tombe de haut, parce que je pensais que ce serait le secteur préservé. Alors, je ne dis pas qu'en France, ce sera pareil, mais je pense quand même qu'on n'évite pas ce qui se passe aux États-Unis. En général, se passer 10 ans après chez nous. Maintenant, 3 ans après, c'est chez nous, 2 ans
sûr.
Après. Donc, on constate donc quoi? En fin de compte, il y a besoin de contenu. Donc, le métier de l'édition sera toujours là pour faire du contenu. Il y a besoin d'auteurs. Donc notre bataille, notre combat, c'est de maintenir le droit d'auteur à tout prix. Enfin, c'est ce que nous avons avec le ministre dernièrement, et la loi qui a été votée préserve le droit d'auteur. Mais avant, notre livre est transité par les libraires. Et donc, je pense que dans l'avenir, une partie des livres transiteront par les libraires et une autre partie des livres
directement de l'éditeur au lecteur.
Au lecteur.
C'est comme ça que vous voyez un peu se dessiner l'avenir de l'édition dans les quelques années qui viennent.
Ah oui, c'est certain, c'est certain.
Donc c'est plutôt le libraire qui est en danger que l'édition en elle-même, c'est pas l'éditeur, c'est plutôt le libraire, c'est la distribution qui va changer.
Oui, la distribution va changer. Alors comment les libraires réfléchissent aussi, comment prendre ça en compte? Alors ils commencent à ouvrir des sites, parce qu'ils se rendent compte que leur zone de chalandise, qui avant était leur quartier, aujourd'hui, avec Internet, vous avez un libraire en bas de chez vous, mais si vous êtes au 5e étage et que vous avez besoin d'un livre sur la vie des tortues
au 15e siècle,
ou au 15e siècle dans le Pacifique, vous allez regarder sur Internet, et puis on va vous proposer le livre qui vous convient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas descendre chez votre libraire, commander un livre, vous allez cliquer et vous allez l'acheter et vous le recevrez gratuitement. Quand c'est encore la mode du gratuit, vous allez le recevoir gratuitement.
Bien sûr, c'est une facilité incomparable.
Donc, si vous voulez, tout ce qui était zone de chalandise, tout ce qui était zone de référence, tout ça, ça explose aujourd'hui. Tout explose. Et ça, c'est effrayant. Et c'est merveilleux.
C'est merveilleux.
Moi, je trouve ça merveilleux. Je pense qu'on en a rêvé. On en a rêvé. Vous savez, j'avais une prise de sang avant tous les 3 mois quand j'étais gamin, parce que le plomb entraînait le saturnisme. Ça me fait bizarre quand j'y réfléchis, parce que, vous savez, j'avais un type qui était un vulcain à côté de moi, qui fondait, qui coulait des caractères dans du plomb en fusion. C'était une sorte d'Irlandais effrayant pour un gamin de 14 ans. C'était ça l'univers du livre. Aujourd'hui, on est dans un univers complètement dématérialisé.
Alors Alain Noël, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle au point de la manière dont vous recherchez vos sujets et vos auteurs. Êtes-vous par exemple à l'affût toute la journée quand vous voyez le journal, la télévision, ce que vous entendez à la radio en vous disant tiens, ça pourrait faire un livre?
C'est maladif.
C'est maladif.
C'est totalement maladif. C'est totalement compulsif. Je crois le pire que
vous
j'ai vécu.
Vous ne pensez qu'à ça alors?
Non, mais le pire que j'ai vécu, et là je me suis pris un missile sous la ligne de flottaison par ma femme, c'est quand je suis allé enterrer ma mère. On préparait la cérémonie d'enterrement et le curé de la paroisse de ma mère me dit votre maman aimait bien ceci, aimait bien cela. Et d'ailleurs, j'ai des lettres d'un des moines de Tibérine. Et paf, ça a déclenché immédiatement le réflexe. Quoi, vous avez une lettre, mais vous n'en avez pas d'autres, mais ce serait formidable, on pourrait faire un livre. Et là, ma femme me dit, écoute, t'es en train d'enterrer ta mère, arrête de faire des livres. Donc voilà, bon, c'est-à-dire, oui, que c'est une passion. Je pense que quand on a la chance de pouvoir être comme ça à la source de la création, quand on a vraiment cette chance... Alors, je suis un éditeur un peu particulier. Il y a plusieurs types d'éditeurs. Il y a les éditeurs qui sont des hommes, entre guillemets, de littérature, c'est-à-dire des hommes qui qui ne songent qu'au texte, qui ne songent... Moi, je suis pas du tout un homme de cet acabit-là. Je sais que le texte est extrêmement important, et bien sûr qu'un bon livre, c'est un bon texte.
Bien sûr.
Mais avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. C'est quelle idée on va développer, comment on va la développer. Et donc, je fais partie de ces éditeurs qui commandent énormément de livres à des auteurs.
Voilà.
C'est-à-dire, une fois qu'il y a un déclic, on lit, comme vous le disiez tout à l'heure, on lit la presse, et puis crac, on se dit « Ah, mais ça, c'est un vrai problème de société. »
Donc,
et
alors, quel à partir auteur de là, va voilà, pouvoir me le traiter
voilà, quel voilà. auteur va accepter de le traiter.
Et là, vous cherchez.
Et là, on cherche, jusqu'au moment où on trouve. Et puis après, on élabore, c'est passionnant. Là, en sortant de votre studio, j'ai rendez-vous avec un auteur sur lequel on a plusieurs angles pour attaquer le livre que je lui ai commandé. On va discuter de ça. Parce que je considère que je sais bien emporter la conviction sur un livre à partir du moment, et je pense qu'un livre peut bien se vendre à partir du moment où il est bien, entre guillemets, positionné. C'est-à-dire, on sait à qui on va s'adresser, comment on va s'adresser. Parce qu'il sort 150 livres nouveaux par jour.
Oui, il faut savoir ça, 150 livres nouveaux par jour.
Sans compter les rééditions, ce qui mène à quasiment 300, parce que c'est le double. Donc, ça fait plus de 50, ça
Donc,
doit faire 50, donner... 59 000 ouvrages nouveaux par an.
Oui.
Comment voulez-vous que vos livres trouvent une place chez le libraire? Et quand vous êtes arrivé à le mettre chez le libraire, comment voulez-vous trouver la place pour qu'on en parle dans les médias, pour faire connaître? Si on l'apparentait à un métier sportif, c'est un métier de gymnaste. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de faire le grand écart entre à la fois le côté complètement artisanal, le côté complètement... amoureux, avec une relation très humaine, très forte, enfin unique avec quelqu'un, et puis le fait d'être en rivalité avec 10 000 personnes qui veulent passer sur les ondes, qui veulent capter le micro, et puis se retrouver avec 10 000 autres personnes sur les tables des libraires au milieu d'un choix et d'une... Parce que l'édition française est merveilleusement riche. Donc, si vous voulez, on passe sans cesse de l'aspect le plus transcendant à l'aspect carton.
Voilà, et ce grand écart vous passionne, j'ai l'impression, Alain.
Oui, ouais, mais de temps en temps, on a mal aux inducteurs.
Mais il y a tout de même aussi encore un petit détail sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il ne faut rien cacher à Canal Académie. Quand vous avez parlé de Léonard de Vinci, est-ce que vous n'avez pas publié en tant qu'auteur, alors là, un livre remettant un peu les choses en place par rapport à certains livres à succès sur ce sujet?
Oui, l'an dernier, en plus, oui, je me suis commis en tant que co-auteur,
voilà,
parce que nous étions deux, sur deux sujets. On a fait une enquête sur la mort de Jésus à la suite du film de Mel Gibson, où il s'était dit tellement de bêtises qu'on s'est dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc on l'a fait, on a fait une enquête sur la mort de Jésus, où on a dépeint le contexte historique dans lequel le Christ a vécu et les forces qui étaient en présence. Et puis, Dan Brown, j'en ai eu marre, quoi, des bêtises, quoi, énoncées avec en préambule dans son dernier livre, enfin de l'époque, qui était Anges et démons, comme quoi il se basait sur des faits réels, avérés, vérifiés.
Donc là, vous avez pris votre plume.
Alors là, vraiment. Je me suis dit non, c'est pas possible. Surtout que, si vous voulez, je fais partie de ces gens dont la vie a été bouleversée par un roman. Donc si vous voulez, je connais de l'intérieur
l'impact.
La puissance.
Oui.
Infiniment plus grande que peut avoir un roman.
J'aimerais
qu'un
savoir
essai.
Lequel.
Qu'un essai, aucun intérêt. Et donc, je sais qu'un roman peut bouleverser, modifier le comportement, la pensée des personnes qui le lisent.
Et là, il faudrait au moins présenter le roman comme étant un roman, tandis que là,
C'est un roman.
C'est un roman qui n'en est pas un, parce qu'il est présenté comme une réalité historique.
Bon, alors Jésus qui part avec Marie-Madeleine, bon, bah, tant mieux pour lui.
D'ailleurs, vous avez plusieurs auteurs dans votre maison d'édition qui aussi, chacun à sa façon... est parti un peu en guerre contre ces...
Oui, on est parti en guerre contre un certain nombre de choses. Mais on n'est pas parti en guerre contre. On s'est dit, bon, on va faire quelque chose pour la vérité, quoi. Enfin, pour la justesse des propos. Onfray, qui est devenu un monstre sacré quasiment intouchable, on a fait un livre d'anti-athéologie, parce que ce qu'il énonce, c'est d'une bêtise crasse, d'une ignorance. C'est effrayant, quoi. Et les gens l'écoutent parce que, un peu comme il est dit dans je ne sais plus quel épître, les gens se donnent des philosophes au goût du jour, selon leurs désirs. Et je crois qu'il correspond à ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui. Mais il est très très loin dans les explications qu'il donne, dans les analyses qu'il fait de la vérité. C'est vrai aussi pour l'Opus Dei, lié toujours au Da Vinci Code. Là aussi, on a rétabli un certain nombre de vérités sur cette association chrétienne pour laquelle je n'ai aucune sympathie. Mais j'ai une sympathie pour la vérité et je ne supporte pas que l'on travestisse la vérité.
Et en plus, en tant qu'éditeur, vous avez un outil, justement, qui permet de donner un autre éclairage que celui qui est à la mode ou bien en cours. Donc, il faut s'en servir, justement.
Oui, alors, ça fait partie de notre métier. Donc, j'ai publié un livre, Les démons de Dan Brown, où, justement, je montre un peu ce qu'il y a dans l'envers du décor. Et en tout cas, nous démontons un grand nombre de ces affirmations. Notamment, surtout, la plus aberrante, c'est de dire que l'Église est contre la science. Alors ça, c'est une bêtise et une ignorance crasse.
La vérité, donc, pour construire l'homme, puisque construire l'homme, des livres pour construire l'homme, c'est le slogan des presses de la Renaissance. Merci Alain Noël de nous avoir fait partager votre passion pour l'édition, de nous avoir fait découvrir les presses de la Renaissance et aussi les livres que vous aimez défendre et que vous aimez publier.
Et que l'on peut retrouver sur www.presse-renaissance.fr.
Merci.